Superbe Ciné, séquence 14.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, vous êtes bien ici pour faire le plein de cinéma comme chaque semaine. C'est Scarp Ciné sur Radio Scarp Sensé. Aujourd'hui, de l'humour avec Sébastien L'Hôpital pour son instant ciné. De l'amour avec Élise Otzenberger pour le film Par amour. De l'hommage en musique pour David Lynch. Et on commence avec de l'histoire. L'histoire d'un fait divers qui a bouleversé un pays tout entier, la Belgique, et qui a inspiré le film Le dossier Maldoror, actuellement au cinéma. Carole et moi-même avons rencontré le réalisateur Fabrice Devels au Arras Film Festival.
Partagez votre cinéma sur Radio Scarpe Sensé.
Au Arras Film Festival, on parle du dossier Maldoror avec Fabrice Duvels. Bonsoir.
Salut, bonsoir.
Chartier, un jeune gendarme idéaliste, va enquêter sur la disparition de deux jeunes filles. Un combat face au dysfonctionnement judiciaire. Un film qui s'inspire de l'affaire Dutroux. Pourquoi ce choix de revisiter cette affaire ?
Parce que ça n'avait jamais été fait de manière frontale et qu'il y a matière à faire quelques films et quelques saisons d'une série absolument terrifiante. Donc nous, on a essayé, par le point de vue d'un jeune gendarme, de contracter en fait cette affaire. Donc je pars d'un postulat simple. C'est un jeune gendarme qui s'appelle Paul Chartier, qui vient d'un milieu fracassé, qui pense qu'il va pouvoir rendre la justice ou être un homme juste, un homme meilleur au sein de la gendarmerie. Il s'attelle à sa première affaire, qui est cette disparition de deux gamines. Et très vite, il va se rendre compte qu'il est empêché et que la corruption gangrène de partout, quoi.
Lui veut faire bouger les lignes.
Lui, oui, il veut absolument faire pourquoi il est devenu gendarme. Il veut être dans une justice, il veut faire son métier, il veut faire quelque chose de juste. Un peu naïvement, un peu idéalistement, mais il va se fracasser en fait au dysfonctionnement, à la corruption, à la rétention d'informations, parce que nous sommes dans une Belgique en 95. Où c'est avant la réforme fédérale, où il y a différents corps de police qui travaillent l'un contre l'autre, parce que comme la réforme s'annonce, chaque corps de police veut prévaloir sur l'autre, et donc il y a des rétentions terribles d'informations, ce qui nous amène à une tragédie, et ensuite, après, bien sûr, la justice et les dysfonctionnements graves de l'appareil judiciaire.
Carole.
Vous avez aussi une façon de filmer la famille. Pour moi, il y a plusieurs familles. Il y a la famille sicilienne, il y a la famille de la gendarmerie, de la police, et puis la famille du milieu. Comment vous avez abordé ces idées-là ?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un film de clan. C'est vraiment presque un western pour ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de clans. Donc c'est des mondes chaque fois interlopes qu'il fallait rendre grâce ou justice en tout cas. Donc on voit bien, on a la gendarmerie mais aussi les différents corps de police. Il y a la famille issue de l'immigration sicilienne de Charleroi. Il y a le milieu du proxénétisme de Charleroi. Il y a les dégénérés, comme on les appelait. Enfin, il y a tous ces mondes qui s'interchoquent. Et donc il y avait une attention très très particulière à la en tout cas à une certaine vérité, du casting sauvage qui a été fait en amont du film pour pouvoir rendre homogène acteurs chevronnés et gens qui sortent de chez eux, qui sont absolument des acteurs non professionnels.
Parce qu'il y a vraiment la parole de la rue qui éclate dans cette famille. Et ça, c'est très intéressant.
Ça, c'était très important pour moi parce que, en fait, moi, j'avais 20 ans quand l'affaire Dutroux a éclaté. Et donc, forcément, j'ai des souvenirs encore très, très vivants. Et puis, je me souviens à table, mon père, les amis de mon père, ma mère, tout le monde commentait ouvertement avec... Des choses parfois qui étaient invraisemblables. Les gens y allaient vraiment. J'ai vraiment la scène, par exemple, où la famille italienne commente à la découverte des deux gamines, des corps des deux gamines. C'était pas une scène qui était écrite et qu'on a tournée presque de manière volée. Enfin, pas volé, ils étaient au courant, bien sûr, mais où je les ai plongés dans la situation. Donc, j'ai convoqué leurs souvenirs et ils ont vraiment balancé les choses qu'on entendait énormément à cette époque-là. J'ai été très vigilant à la parole populaire, en tout cas, à ce que les gens disaient dans la rue. Et c'était très important parce que moi, je voulais vraiment faire un film populaire. Et je pense que je voulais vraiment donner la parole à cette population qui a profondément été marquée, moquée, ostracisée, culpabilisée par cette affaire. Parce que l'affaire Dutroux est certes une affaire terrible, c'est une affaire d'État en Belgique, c'est pas un fait divers, c'est une affaire terrible, mais c'est aussi une affaire de classe. C'est-à-dire que si les deux gamines avaient appartenu à un milieu favorisé, ça n'aurait pas été géré de la même manière. Donc c'est aussi, c'est vraiment une affaire de classe et c'est profondément... les milieux les plus défavorisés qui ont été touchés et qui ont, après l'affaire, qui ont payé le plus lourd tribut des conséquences de tout ça.
Marcel te tue, c'est lui.
Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore.
De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans.
Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant.
Gendarmerie, ouvrez !
Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer ? T'as rien entendu ?
Un gendarme aussi seul face à lui-même, malgré les lenteurs et les problèmes, il va se mettre à bout. Pour terminer ce dossier, quitte à laisser sa vie de famille, se pose question aussi de l'accompagnement des gendarmes dans ces affaires horribles.
Oui, alors, encore une fois, il y a l'affaire, mais ça reste librement et partiellement inspiré. Moi, je reste à ma place. Hein. Je suis un cinéaste, je ne suis pas un juge ni un avocat. Je ne vais pas me substituer à des gens qui ont des compétences autres. Voilà, moi, j'ai voulu faire un bon film. J'ai voulu faire un bon policier, avec une dimension politique, certes, mais j'ai voulu d'abord faire le meilleur thriller possible pour que les gens soient embarqués dans une histoire, soient à l'aune de ce personnage de Paul Chartier et qui découvre avec lui l'abysse dans laquelle il plonge et la fange dans laquelle il s'enfonce.
Et quel choix dans l'écriture et aussi dans la réalisation pour montrer l'horreur ?
Alors, montrer l'horreur... c'était pas une volonté de ma part de montrer l'horreur pour montrer l'horreur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux questions qui ont irrigué profondément toute la production de ce film. C'est la question de la justice et la question du mal. Que peut faire un homme juste dans une société où la justice déraille ? Et qu'est-ce que c'est le mal ? Est-ce que c'est une bande de dégénérés qui violent des gamines dans des caves ? Ou est-ce que c'est la guerre des polices ? Est-ce que c'est la rétention d'informations ? Est-ce que c'est la corruption ? Et donc ces deux questions qui sont un peu, certes un peu lourdes et un peu métaphysiques, mais je voulais surtout leur donner un corps, une viscéralité. Et pour ça, c'était les rendre à les incarner en Paul Chartier. C'est-à-dire que Paul Chartier, à un moment donné, soit confronté à des choses terribles et fasse des choix et en assume absolument les conséquences. Donc ça, c'était vraiment un point central du film. C'était avoir ces deux questions et de les confronter à juste un homme avec son corps, avec sa viscéralité, et de voir comment il se débattouillait face à ces deux questions qui sont des questions plus grandes que nous tous, en fait. Et donc l'horreur, forcément, elle accompagne certains éléments de l'histoire, parce qu'il fallait témoigner en fait de l'horreur de certaines situations, non pas pour se répandre dans l'horreur ou en jouir, mais simplement pour témoigner de ce que pouvaient être des éléments horrifiques, accompagner en fait cette réflexion de Paul Chartier.
Alors moi j'aimerais parler d'une image qui m'a fortement marquée, du moins deux. La façon dont vous avez filmé Rita à la fin, pour moi, donc Rita étant la mère de Paul, qui est incarnée par Béatrice Dalle, vous l'avez filmée en Mater Dolorosa. Est-ce que c'était une volonté ?
Oui, écoutez, moi j'aime beaucoup Béatrice Dalle et j'ai même fait un documentaire sur elle, là, enfin une sorte de portrait d'elle. Et c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher de voir Béatrice Dalle comme aussi une Mater Dolorosa, c'est-à-dire que elle a cette dimension, cette empathie, cette humanité. Et puis le personnage me touche beaucoup parce que c'est un personnage qui est en rédemption, qui se rachète une faute, qui rachète quelque chose et qui va pleurer sur son film, sur son fils perdu à ce moment-là. Donc il y avait une dimension, oui, certes iconographique, un peu chrétienne, mais voilà, qui j'espère est modérée.
Et puis la deuxième image, c'est la façon dont vous tournez Charleroi. C'est étouffant. Alors pour référence, on a vu un film qui s'appelle Mon Inséparable. Et dedans, on parle de Charleroi comme étant la pire ville. On ne voit pas d'image, mais vous mettez en image cette ville qui est un personnage.
Oui, alors vous avez tout à fait raison. L'idée, c'était vraiment que Charleroi soit un des personnages principaux du film. Parce que en préparation du film, j'ai beaucoup été à Charleroi, forcément. Et je me suis rendu compte à quel point cette ville était fondamentale. Alors bien sûr, je connaissais Charleroi, mais je ne suis pas ici de Charleroi, même si je suis tombé amoureux, hein, vraiment, véritablement, de la ville. C'est une ville qui est tout et son contraire. Il ne faut pas oublier qu'au milieu du 19e siècle, c'était la ville la plus riche du monde. Enfin, la deuxième ville la plus riche du monde. Donc vous voyez un petit peu ce qui s'est passé en presque deux siècles. C'est une ville... J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et croyez-moi, je crois que c'est une des villes où j'ai vu une misère que je ne soupçonnais pas. C'est une misère économique, sociale, morale. Et c'est aussi une ville qui est peuplée de gens avec une dignité très forte et qui ont profondément été marqués par cette affaire. Et moi, modestement, je voulais rendre hommage à la ville, rendre hommage à sa population. Et ça me touche vraiment beaucoup. C'est vraiment très à cœur. J'avais vraiment envie que Charleroi soit réhabilité, en fait. Que l'intégrité du Paul Chartier, parce que Paul Chartier perd tout à la fin sauf son intégrité, et ben que cette intégrité aille aux gens de Charleroi.
Vous avez ignoré le cadre de la perquisition.
J'ai entendu, je suis pas fou.
Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête.
Dans mon coffre, c'est pas mon boulot.
Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire.
Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. C'est terminé, Chartier, là. Non, mais non, mais
putain. La petite, elle a besoin de toi.
Je suis sous les nuits avec leur chuchote dans la tête.
T'es un flic. Tu peux rien en faire.
Un film sur le traumatisme, sur cette terrible affaire du trou, filmé pour ne pas oublier, ici, pour la jeune génération.
Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'était de faire aussi un film mémoire, en tout cas pour les jeunes gens. C'est pour ça qu'il est aussi frontal. Alors bien sûr, ça reste un film de cinéma avant tout, mais j'avais envie que c'est un film... J'avais envie que le film suscite le débat, qu'après, les gens en parlent. Je le vois bien dans les avant-premières que je fais depuis maintenant quelques semaines, que c'est un film... qui suscite un débat. Les jeunes gens apprennent des choses, en tout cas en Belgique, ils apprennent des choses sur une époque qui n'imaginaient pas comme ça. Alors bien sûr, je leur dis que ce n'est pas la réalité, que c'est un film de cinéma, mais quoique, il y a quand même beaucoup, beaucoup de faits dans le film, il y a quand même énormément de faits, mais c'est un film, vous avez raison, un film de mémoire, en tout cas je l'espère, Et c'est aussi un film de catharsis. Pour moi, le film est conçu comme une tragédie, mais comme les tragédies grecques, c'est-à-dire qui se soldent dans le sang et qui permettent en tout cas une tragédie, une catharsis. Pardon.
À quel moment on met le curseur, justement, dans, est-ce qu'on fait une reconstitution de l'affaire du trou? Et justement, à quel moment aussi on s'en éloigne? Quel a été le choix dans l'écriture?
Paul Chartier. Paul Chartier, pour moi, c'est toujours, c'est l'aune de, c'est vraiment le regard du film. C'est pour ça que c'est un film forcément qui contracte l'affaire, puisque j'ai des hors-champs, hein, enfin, je ne suis pas tout le temps avec Paul Chartier, on est de temps en temps avec les méchants et avec les différentes familles, comme disait madame, les différentes familles qui peuplent le film. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'être dans le regard de Paul Chartier et dans son combat moral. Et dans son dilemme.
Chartier est incarné par Anthony Bajon, justement, qui est ici ce soir, un acteur qui incarne un personnage rempli de passion, d'humanité et surtout d'honnêteté.
Oui, tout à fait. Bah, Anthony, je pense que c'est le plus grand acteur de sa génération, très franchement, très sincèrement. Je l'ai vu il y a quelques années dans La prière de Cédric Kahn. Je ne l'ai jamais oublié, il a grandi maintenant, forcément. Donc j'ai assez immédiatement pensé à lui pour interpréter Paul Chartier. Je l'ai rencontré et je pense que ce rôle, cette problématique suscitait beaucoup d'engagement de sa part. Et je crois qu'il y avait une intersection réelle et très personnelle, en tout cas, entre lui et le personnage.
Voilà. Tiens, je te préviens tout de suite, on ne perd pas. Parce que là, je te connais. Ça, voilà.
Il est en train de partir. Là, non, il passe pas.
Toucher ma main.
Non,
Silence.
Cécile et Elina n'ont que 7 et 8 ans. Leur disparition inquiète les enquêteurs qui n'écartent aucune piste.
Et toi, c'est qui le père d'Elina? Le calabré? Éloigne sûrement ton père ici en haut quand il est arrivé en Belgique.
C'est lui?
Bah ouais.
Pardon, monsieur, vous êtes là pour quoi?
Ben, on est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. Quand on leur dit que les petites n'apparaîtront pas ainsi, ils nous disent qu'elles ont juste fugué.
Putain, mais vous voulez pas bouger un peu les flics, hein?
C'est la police judiciaire qui a le dossier entre les mains. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus à la gendarmerie?
Une base dans la tête et basta.
25 000 espoirs de retrouver au
plus vite
ces deux petites disparues. Une campagne d'affichage qui représente un investissement conséquent.
C'est pas n'importe quoi.
En même temps...
Qu'est-ce qui vous motive, madame?
Fabrice Devels, le réalisateur du dossier Mal d'horreur actuellement au cinéma avec Anthony Bajon, Alexis Mananti et Sergi Lopez. Un drame haletant, mis en scène de bout en bout et sur le chemin tortueux pour connaître enfin la vérité. Dans un instant, un autre labyrinthe, Par amour, pour découvrir le mystère d'un enfant. Élise Hotzenberger, rencontrée une nouvelle fois au Haracine Festival, est dans Scarpe Ciné après Bobby Vinton pour Blue Velvet, hommage à David Lynch.
Coup de projo sur le cinéma Hauts-de-France.
She wore blue. Was the night softer than satin? Was the light from the stars? She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart they'll always be. Precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my
tears. Nous sommes en 1987, David Lynch sort un film qui va marquer sa filmographie et qui va marquer les spectateurs, surtout Blue Velvet, avec Isabella Rossellini et Dennis Hopper, l'histoire sombre de Dorothy Valens, une chanteuse de boîte de nuit unie à Frank, un gangster sadique. Le réalisateur David Lynch nous a quittés le 15 janvier dernier. Nous allons aussi lui rendre hommage avec la BO de Mulholland Drive tout à l'heure. Scarpe Ciné, deuxième partie, avec une comédienne et réalisatrice, Élise Hodson-Berger. Elle met en scène Cécile de France dans un drame qui ne me prend pas l'eau. Dans ce film, Sarah et Antoine sont au bord de la rupture, fragilisés par un quotidien surchargé entre le travail et leurs deux enfants. Un jour, Simon, l'aîné, confie à sa mère entendre des voix. Si Antoine peine à prendre la mesure du problème, Sarah décide de soutenir son fils. Jusqu'où ira-t-elle par amour ?
Rencontre avec les acteurs du cinéma en Hauts-de-France sur Scarpe Sensée.
Simon !
Sur Radio Scarpe Sensée, au Arras Film Festival, pour parler du film Par Amour avec Élise Hodson-Berger. Bonjour.
Bonjour.
On suit dans votre film le parcours d'une mère avec ses deux fils, dont l'un va être bousculé après une virée en mer. Par Amour, c'est un film de genre où l'eau est un personnage du film, un messager de l'au-delà. Dès les premières secondes, l'eau est déjà dans les yeux de Cécile de France qui incarne ce film et qui est l'invitée d'honneur du Arras Film Festival. Comment vous avez choisi de filmer l'eau ? L'eau est ici tout le temps en mouvement.
J'y ai beaucoup pensé. L'eau est très importante pour moi. Je fais de la plongée sous-marine depuis que je suis enfant. J'ai été très obsédée par des films d'eau. J'ai beaucoup regardé les films du commandant Cousteau, Le Monde du Silence. Enfin, tout ça, c'était des influences de cinéma très présentes. J'ai réfléchi à ce que ça pouvait avoir de mystérieux, comment ça allait pouvoir m'aider à raconter le fantastique. Ça s'est fait de manière assez naturelle. J'ai choisi de tourner les scènes de mer sur des plages que je connais très bien, où je passe beaucoup de temps, où je vais avec mes enfants. Donc ça s'est fait assez naturellement.
Et l'eau submerge aussi le film. On va dire que c'est un défi technique aussi de réaliser certaines séquences d'eau qui inonde aussi les plans. Quand on pense que le cinéma, c'est beaucoup de l'électricité, c'est beaucoup des équipes, c'est un défi technique, logistique.
Alors complètement, et ça m'excitait beaucoup d'ailleurs, c'était très amusant. Moi, je suis, mon premier travail, c'est d'être actrice, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc j'aime bien aussi l'aspect mécanique de tout ça. Qu'il y a aussi dans le cinéma. Et avec ce film-là, j'ai vite Bon, déjà, c'est un film d'auteur, donc avec un budget assez raisonnable. Donc, j'ai vite eu conscience de notre impossibilité à se lancer dans des trucages, même en post-production numérique, trop importants. Et au-delà de ça, c'était un choix artistique de pouvoir vraiment travailler une majorité d'effets au plateau, en réel, parce que j'ai l'impression que ça vieillit mieux, déjà. Et puis, parce que ça m'amuse. Je pense que la tradition de cinéma qui me fait rêver depuis toujours a commencé par Chaplin, en passant par Méliès et même chez les premiers Spielberg où les trucages sont plus de l'ordre de la maquette que de vraiment des choses numériques. Voilà, donc on a avec nos petits moyens on a réfléchi et il faut être inventif et voilà, il faut souvent ça peut cultiver l'invention en fait.
Alors c'est le combat en effet d'une mère qui se bat aussi pour rentrer dans l'univers de son fils qui entend des voix de au-delà. C'est un univers rempli d'eau et d'illusions. Et justement, ce film, c'est une illusion ou une désillusion ?
Alors, non, pour moi, tout ce merveilleux la remet au bon endroit, mais dans la bonne réalité, c'est des gens qui ont tout pour être heureux, qui s'aiment, c'est une famille qui ne devrait pas être en face des problèmes qu'elle rencontre, comme beaucoup de gens aujourd'hui, parce que malheureusement, l'extérieur est trop dur et que la peur, le doute, l'angoisse vient bousculer des gens qui ont tout pour être heureux. Et même eux, vont se retrouver en face de questionnements et de douleurs néfastes. Et grâce à cet enfant qui va leur permettre de se reconnecter à quelque chose de merveilleux, à retrouver leur part d'enfance aussi, ça va remettre cette famille là où ils devaient être. Je pense qu'ils vont mieux à la fin du film qu'au début. Ouais.
On est dans un film, c'est vrai, sur la famille, un film social, et vous intégrez subtilement aussi le film de genre, fantastique. C'était une envie de faire un film d'abord fantastique ou d'un film d'abord social ?
Ça a toujours été très lié. Pour moi, c'est vraiment... j'avais aussi, par rapport aux films qui m'ont inspiré, ma culture cinématographique, artistique, même globale, j'ai l'impression que le genre permet de raconter des drames intimes de manière très puissante, très organique, qu'il y a quelque chose, d'essentiel et que finalement, confronté à des événements un peu fous, on est justement en face de la sincérité, de l'humanité des gens, peut-être encore plus fort que quand on essaye de les montrer dans des choses très terre à terre, quoi.
Et justement, est-ce que c'est par le genre qu'on peut mieux filmer ce qui se passe dans la tête ?
Moi, en tout cas, c'est un cinéma qui me touche beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Donc oui, et puis parce que moi, j'ai eu envie de faire du cinéma parce que je voulais vivre mille vies, être un archéologue comme Indiana Jones et et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est merveilleux au cinéma. C'est quand on réussit à embarquer le spectateur à des endroits qui vont... Une évasion, en fait. Moi, je rentre dans une cinéma... Alors, c'est vrai, ça peut être vrai. Moi, il y a des cinéastes, je sais pas, comme Ken Loach ou des gens qui font un cinéma très proche du réel qui vont me bouleverser aussi, mais en tout cas voilà, que l'idée d'embarquer un spectateur, que son moment s'arrête quand il rentre dans la salle de cinéma et qu'il voyage comme ça très très loin, oui, et je pense que le fantastique permet ça.
Simon ?
Comment ça va à la maison ?
On se dispute assez souvent.
Je pense que ça peut venir de nous.
Donc dans ce film, il y a donc cette mère qui s'appelle Sarah, qui va vers son fils, qui va l'accompagner, et un père qui est plus en retrait, qui dit attention, il faut bien séparer l'imaginaire de la réalité. Est-ce que c'est aussi un choix dans votre note d'intention de séparer l'imaginaire de la réalité ?
Alors, moi, j'ai la chance de faire un métier où je travaille beaucoup l'imaginaire. Moi, dans ma vie à moi, je suis ramenée à cette part d'imaginaire quotidiennement. Mais je pense, que c'est ça peut sauver plein de gens quand même de garder cette part-là, de garder. Alors, on peut parler aussi d'une part d'enfance. Mais je pense que c'est important. Je pense que c'est là où l'art est merveilleux, quoi. Ça permet de s'élever. Sinon, la vie.
Notamment pour filmer cette famille et aussi pour filmer l'eau, je trouve qu'il y a une musicalité à part. Et vous avez fait appel à Rob. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce film et à la musique, qui est à signaler quand même parce qu'elle est vraiment très intéressante et elle emmène aussi les personnages.
Alors, Rob, moi, je savais, j'aimais beaucoup son univers musical. Je savais aussi qu'il voilà, il a ce goût du film de genre. Il collabore avec Alexandre Aja depuis le début. C'est un musicien français, mais enfin, qui travaille sur un tas de films différents et assez... Enfin, c'est très vaste, quoi. Et puis, il a aussi c'est un clavier avec ce qu'il peut avoir de classique dans sa formation, mais c'est quand même un musicien de musique électronique. Enfin, voilà, il a ce... lui aussi ce mélange des genres dans son approche musicale qui je pense était voilà, je pensais qu'il allait pouvoir trouver quelque chose, enfin trouver comment raconter musicalement ce film.
Quelle a été sa place aussi dans la conception? Il a eu les images, il a conçu la musique, ou alors il a été là avec vous dès le début?
Non, il est arrivé assez tard sur le projet et donc en fait il a vu le film terminé et je crois qu'il a fait une première version quasi. Il m'a souvent on échange des premiers morceaux et là il m'a carrément donné tous les morceaux. Alors évidemment après on a travaillé, ça se fait pas aussi simplement que ça, mais en tout cas il a vraiment eu une inspiration, un souffle sur tout le film en premier quoi.
Dans ce film Par amour, je trouve qu'il y a une vraie tendresse dans la façon de raconter les personnages, de les raconter aussi avec le montage, on parlait du montage il y a un instant, mais aussi peut-être une nervosité aussi, on sent une tension qui est palpable aussi, on se demande si il ment pas, enfin, et même aussi dans la caméra qui est très proche aussi des acteurs.
Oui, je voulais à la fois filmer quelque chose de spectaculaire avec tous les événements fantastiques qui se passent et en même temps être très proche de l'intime de cette famille. Moi, j'ai beaucoup pensé, par exemple, au vieil homme et l'enfant, où il y a des scènes d'intimité entre les grands-parents et le petit, où on est très proche, où j'ai l'impression que parfois, aujourd'hui, on fait moins ça, d'être très proche de la famille, de voir les gens se toucher et tout. Donc ça, c'était des choses dont j'avais beaucoup parlé à mon chef opérateur. Ouais.
Et le choix, la position de la caméra, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est par exemple, dans les premières scènes, on est dans la cuisine et vous avez décidé de mettre la caméra au niveau des enfants. On voit plus beaucoup ça au cinéma. On voit toujours les enfants par le regard d'adulte. Là, c'est vous avez remis la caméra à hauteur d'enfant.
Ouais, bah ça, pareil. Il fallait vraiment. En fait, à l'écriture déjà, c'était un vrai sujet de. Évidemment, c'est Sarah l'héroïne du film, mais il y a parfois, voilà, on est aussi du point de vue du petit garçon, et il fallait réussir habilement à passer d'un point de vue à l'autre à certains moments du film. Et de découvrir, que le spectateur puisse découvrir avec les enfants, par leur regard à eux, tout le merveilleux qui se déploie.
Il y a quelque chose de grave.
Qu'est-ce que tu fais, lui ?
Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix ?
Pourquoi tu veux pas me dire ?
Bah, c'est beaucoup le casting, hein. Tout se fait beaucoup. C'est vrai pour tous les acteurs, mais peut-être encore plus les enfants. Ils n'avaient jamais fait de cinéma avant. Ils sont frères dans la vraie vie, donc ça déjà c'était un super un cadeau.
Ils se ressemblent déjà.
Et puis voilà, il y a toute une intimité. Et puis aussi, je pense, des choses dans leur propre relation dans la vie qui servaient beaucoup le propos du film, de la place dans la fratrie, de tout ça. Enfin, c'était un joli cadeau pour moi. Moi, mon envie, quand j'ai écrit ce film, l'envie de diriger des enfants était hyper présente. J'ai beaucoup réfléchi à ça, comment j'allais travailler avec eux. Et puis quand je les ai trouvés, bah, j'étais hyper heureuse de pouvoir organiser le plateau au mieux pour eux, parce que ce sont des enfants acteurs, c'est un travail pour eux, mais c'est des enfants, et des enfants, ça ne doit pas travailler. Donc il faut que ce soit un jeu pour eux tout le temps. Sinon, et ça, pour moi, c'était... Je pense qu'il y a peut-être des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont un peu... apeurés par ça. Moi, c'était un vrai choix, donc je m'emparais très fort de cette responsabilité-là, quoi.
Et sur le tournage, la relation aussi avec les deux jeunes acteurs et Cécile de France aussi, parce qu'il y a l'homme, bien sûr, hein, il y a le papa, mais ils forment un trio formidable à eux trois. Il y a une vraie synergie, il y a une vraie connexion.
Moi, quand j'ai choisi Cécile, vraiment, j'étais sûre qu'elle serait l'héroïne rêvée. Mais je sentais aussi que ça allait être une actrice qui allait être une bonne partenaire pour le travail avec les enfants. Et ça, elle n'a pas du tout démenti ça. Elle a été d'une générosité incroyable. Après, moi, j'ai vraiment organisé le plateau pour qu'elle ne soit pas non plus en surresponsabilité par rapport à ça et pour qu'elle puisse se concentrer sur sa partie à elle qui était très compliquée à jouer. Mais on a préparé, ils sont beaucoup vus. On n'a pas beaucoup répété les scènes du film parce que ça, il faut faire attention à préserver une spontanéité pour eux. En revanche, ils se sont vus. On a gagné la confiance de tout le monde. Une fois que tout le monde part pour faire la même chose, c'est gagné en fait.
Une actrice que vous êtes, qui met en scène aussi une actrice, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Quel regard vous lui avez apporté ?
Ça, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que je lui ai donné une... Je crois qu'elle vraiment, elle a eu envie de jouer ce personnage et qu'elle m'a donné sa confiance. Et à partir de là, elle m'écoutait, même dans les choses les plus étranges et un peu folles que je pouvais lui demander, parce que comme c'est voilà, un film qui parfois n'est pas absolument réaliste, elle y allait. On allait dans la même direction, donc ça se passait très bien.
Dans ces films, il y a des séquences, on ne va pas en parler, mais totalement folles et en même temps très réalistes. Il y a de ça, justement, c'est d'incarner, non pas cette folie, mais d'incarner cet imaginaire, cet au-delà qui pourrait parler, parce que c'est vrai que l'eau est un peu comme un messager, l'eau a un message à faire passer.
Exactement, ouais. En tout cas, elle permet, elle redonne, repermet une communication entre toute cette famille qui s'était abîmée, ouais, tout à fait.
Parce que tu vas pas me croire.
Mais bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas ?
Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons.
Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche.
À pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs.
Je sais ce qui est bien pour mon enfant.
Maman ! Il y a plein d'eau ! Regarde ! Maman, reviens !
Qu'est-ce que t'as dans la tête ? Il aurait pu mourir !
Je pense que c'est difficile de faire des films d'auteur en ce moment, de genre ou pas de genre, en ce moment. Je sais pas si ça a jamais été, mais oui, non, c'est un combat, c'est sûr. Et c'est un combat à chaque fois. Après, c'est bien, il faut se battre. C'est aussi pour ça que c'est formidable le moment où ça arrive. Le film de genre en France, oui, c'est pas encore complètement facile, ça fait peur aux gens. Et ce qui est peut-être encore plus difficile, c'est quand on mélange les genres. Et là, on est sur un drame familial et sur un film de genre. Donc ça peut faire effectivement un peu peur aux financiers et tout. Après, franchement, on est au tout début de la vie du film, donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, les premières projections publiques que j'ai pu faire, il y en avait eu beaucoup, il y en a eu deux, ce soir ça va être la troisième. Bah, on sent qu'en fait les gens sont super heureux d'avoir une proposition un petit peu différente. Donc je pense qu'il faut se méfier aussi des financiers et faire confiance à ce qu'on va raconter. Et que à force de tout marketer et d'être convaincu de savoir ce que les gens ont envie de voir, on perd un peu... en spontanéité. Et je pense vraiment que le public, le large public au sens le plus noble du terme, est tout à fait prêt à être amené dans des endroits poétiques, étonnants, déstabilisants, et que
avec un film comme celui-là, on se dit qu'on a envie pour le prochain projet d'amener encore plus loin un univers dans le film de genre.
Alors ce qui est sûr, c'est que ça m'a j'ai été confrontée là, à des enjeux de mise en scène assez ambitieux, très différent de mon premier film qui était fait dans une énergie presque quasi documentaire. Donc oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup amusée d'utiliser des moyens de cinéma un peu techniques, un peu ambitieux. Oui, donc je pense que je continuerai un peu là-dedans.
Peut-être même continuer à faire parler la matière, parce que finalement là, l'eau, comme je disais, c'est un vrai personnage, et pour moi, l'eau, elle a des choses à raconter aussi avec ses personnages. Déjà, la première séquence se passe aussi à la mer. Donc c'est ça, c'est faire parler la matière.
C'est ça qui est formidable avec l'image, c'est qu'on peut, s'amuser à inventer tout un tas de choses. Et d'ailleurs, nous, quand on filmait le personnage de Charlie dans le film, donc ce petit animal, on a passé des heures à filmer. Enfin, c'est un peu vertigineux. Hein. Oui, c'est sûr. C'est très exaltant.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs quand ils vont voir le film ?
En tout cas, je pense que moi, j'ai envie de... d'encourager. Je pense que c'est un voyage. Je pense que c'est un film qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, que les enfants. Alors peut-être pas les tout petits, puisque. Mais en tout cas, oui, moi j'avais vraiment l'ambition de faire un film assez familial, parce que je pense qu'il y a plein de discours, il y a plein d'entrées dans le film, et que plein de gens peuvent s'y reconnaître. Et je pense que c'est un film qui donne. C'est un film où les adultes croient les enfants, où les gens qui ne s'écoutaient plus s'écoutent à nouveau. Donc je pense que c'est un. J'espère que les gens sortiront heureux, même si peut-être agités, mais en tout cas, parce qu'on passe pas forcément que par des émotions douces dans le film, mais qu'on en ressort. J'espère qu'on a envie d'appeler les gens qu'on aime. Et...
de se regarder à nouveau, hein, dans cette séquence où on ne se regarde plus, eh bien, c'est de se regarder et de se parler à nouveau, par amour pour ce film. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Tout ça, c'est de ta faute.
Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir ?
On continue cette émission avec un extrait de la bande originale Par Amour par le compositeur Rob Zeigol sur Radio Scarpe 107.
Ouvrez l'œil sur l'audiovisuel avec votre radio locale.
À l'instant, Linda Scott, I Have Told Every Little Star, à entendre encore et encore dans Mulholland Drive de David Lynch, César du meilleur film étranger en 2002 avec Naomi Watts. Ce monsieur du cinéma, David Lynch, nous a embarqué dans des univers totalement décalés et totalement réalistes à la fois, dans Elephant Man, dans Dune, dans Lost Highway ou encore dans la série Twin Peaks. David Lynch, hommage sur Radio Scarpe Sensée. Scarpe Ciné continue avec un classique du cinéma raconté par l'humoriste Sébastien L'Hôpital, demi-finaliste d'ailleurs de l'émission La France a un incroyable talent, un humoriste de l'absurde rencontré au Pont de Singe par Carole.
Les dernières actualités de Scarpe Ciné à retrouver sur nos réseaux sociaux. Restons connectés.
Donc je m'appelle Sébastien L'Hôpital, je suis humoriste, chanteur, musicien. Mon type d'humour, c'est un humour assez, on va dire, absurde et musical, surtout.
Ah, puisque vous connaissez la maison Godinot, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité.
Moi, j'ai un film culte, c'est Les Galettes de Pont-Aven, de Joël Seria, avec Jean-Pierre Mariel, notamment. Voilà, ça c'est un de mes films cultes, j'ai découvert ça quand j'avais une quinzaine d'années et il se passe pas 6 mois sans que je le regarde pas, encore aujourd'hui. Dès que j'ai une panne d'inspiration, dès que j'ai une baisse d'énergie dans ma créativité, je regarde ce film et tout de suite ça me rebooste.
Puisque mon grand bateau doit m'emporter bientôt.
Les éléments de ce film qui me reboostent, il y a plusieurs choses. Il y a la Bretagne, il y a le Finistère que j'adore, où se passe tout le film. Il y a forcément Mariel qui est une espèce de... Enfin, voilà, il se révèle là vraiment en tant qu'acteur, quoi. C'est un de ses films, c'est un des films je crois que c'est un des tout premiers films où il a le premier rôle, vraiment le premier rôle. On voit qu'il se révèle vraiment. Et puis il y a aussi les dialogues de Joël Seria qui sont à la fois rabelaisiens, osés, parfois trash, mais toujours finalement avec une espèce de poésie de la vie, quoi, liée à une forme de désespoir. Ça parle d'amour, ça parle de blessures liées à l'amour, ça parle de création, ça parle de la vie d'artiste. Il y a énormément de références à Gauguin. Et à la vie de Gauguin, parce que quand on regarde le personnage de Henri Serin, qui est joué par Jean-Pierre Mariel dans le film, et tout ça, ça forme une espèce de truc magique.
Bande de cinglés.
C'est du cinéma provincial. C'est-à-dire que c'est vraiment du cinéma, tout est en décor naturel, à Pont-Aven et dans ses environs. Ça sonne vrai et sincère, surtout.
Où allez-vous, comme ça?
À Redon.
À Redon, elle est montée.
Là. Vous êtes l'envoyé du Seigneur.
Le lien avec mon humour, c'est le côté punchline, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement des choses qu'on n'attend pas et qui nous tirent forcément des rires, des sourires ou des rires. Finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir de la poésie dans ce qu'on peut appeler la grossièreté, à la condition qu'elle ne devienne pas vulgaire, mais il peut y avoir de la poésie dans la grossièreté et il peut y avoir de la finesse, de la vraie finesse, dans les mots, y compris lorsqu'on utilise des mots qui ne sont pas considérés comme des mots fins. On va dire. Enfin, je ne fais pas que ça, mais il peut m'arriver parfois de lâcher une insulte auprès d'une personne du public ou de me moquer gentiment d'une particularité physique ou autre. Mais j'ai remarqué qu'à la condition que ce soit bien amené, que ce soit bien écrit, on peut finalement aller très loin avec le public. On peut aller très loin, même vers des contrées qui nous semblent des fois trop posées, trop méchantes, alors qu'il n'y a jamais de méchanceté, voilà, dans ce que je fais. Jamais, jamais. C'était Coluche qui disait pour se moquer des gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer, mais il avait entièrement raison.
Puisque mon grand bateau doit m'emporter bientôt. Un dernier sanglots qui tournent sur ce mot des
Sébastien L'Hôpital nous parlait de son film coup de cœur « Les galettes de Pont-Aven ». Retrouvez l'humoriste sur son site internet www.sébastienlhôpital.fr. Et tant que vous y êtes, eh bien, découvrez aussi sur notre page Facebook les événements ciné près de chez vous, la page Facebook Scarp Ciné. Merci à nos invités, merci à Carole. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur votre radio locale. Cette semaine, vous pouvez aller voir Jouer avec le feu, où Vincent Lindon joue le père d'un fils qui se rapproche de l'extrême droite. Il y a aussi le biopic Osé et décalé de Michael Grasset de Robbie Williams avec Robbie Williams. Et puis Les Trois Mousquetaires revisités au féminin par Ouda Benyamina, toutes pour une, aujourd'hui en salle. Merci de votre fidélité encore une fois et surtout n'oubliez pas, d'ici là, allez au cinéma.
Scarp Ciné, séquence 14. Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarp Sensé, ça tourne.
Et action!